Bonjour. Comme chaque premier mercredi de mois, nous nous retrouvons sur fréquence 7 à 12h30 ou 17h30 pour l'émission Claire d'étoiles. C'est Denis de l'association Claire d'étoiles et Brin de Jardin qui nous présente aujourd'hui cette émission. Bonjour Denis.
Et c'est aussi Françoise, également de Claire d'étoiles. Bonjour Françoise.
Comme tous les mois, nous commencerons par un bref panorama de ce qu'il sera possible de voir dans le ciel, à l'œil nu ou aux jumelles, durant ce mois de mai. Puis nous ferons suivre par un focus consacré cette fois à l'eau.
Oui, à l'eau, à l'eau.
Non, un peu de sérieux, à la présence de l'eau dans l'univers. Tout d'abord, Denis, que verrons-nous dans le ciel au cours de ce joli mois de mai ?
Encore une fois, les lève-tôt ou couches très tard seront outrageusement favorisés. Car c'est en fin de nuit ou au petit matin qu'ils pourront admirer la ronde des planètes entre l'Est et le Sud-Est. En début de mois, Saturne se lève vers 4 heures du matin, suivi une demi-heure plus tard par Mars, puis encore une demi-heure plus tard par Jupiter. Vénus fermera la marche vers 5h15, avant que le jour n'efface tout ce joli monde. Vers la mi-mai, ce sera en gros une heure plus tôt, sauf pour la brillante Vénus dont le lever reste bloqué vers 5 heures du matin, et que sa luminosité permet d'observer encore, même lorsque l'aurore est bien avancée. Mis à part Vénus, donc, ce n'est pas l'époque où ces planètes sont les plus brillantes. Toutefois, elles le sont plus quand même que la majorité des étoiles environnantes, et restent donc faciles à repérer, d'autant qu'elles sont tout à peu près localisées en ce moment autour des constellations du Verseau et des Poissons.
Ah, c'est la minute astrologie alors ?
Pas tout à fait. Le Verseau nous intéresse car dans la nuit du 5 au 6 mai, c'est de là que proviendront les aquarides, une pluie d'étoiles filantes qui est la conséquence de la traversée, tous les ans à cette époque, des débris de la comète de Halley par la Terre. À regarder de préférence au petit matin encore, et comme il n'y aura pas de lune visible, ce devrait être intéressant.
Tiens, en parlant de la lune, il y a bien une éclipse au programme de ce mois-ci.
Juste, ne l'oublions pas. Et cela va encore se dérouler aux mêmes heures, mais cette fois du côté de l'horizon ouest. Le 16 mai au matin, la Lune va commencer à être masquée par l'ombre de la Terre dès 3h30. Mais cela ne sera vraiment sensible qu'une heure plus tard, et la Lune sera totalement dans l'ombre de la Terre à 5h30. Elle devra alors arborer une belle couleur cuivrée typique, juste avant de se coucher derrière les montagnes ardéchoises.
J'adore les éclipses de Lune. Elles offrent souvent des teintes superbes, même si on ne peut jamais vraiment prévoir à quoi elles vont ressembler. Mais n'avons-nous rien à mettre sous la dent, ou plutôt sous les yeux, des observateurs qui, aux environs de 4 heures du matin, sont encore au fond de leur lit ?
Les belles constellations d'été, comme le triangle du même nom, commencent à apparaître, mais nous en parlerons plus tôt les mois prochains. À partir de 22 heures, jusqu'en fin de nuit, assez haut dans le ciel et dans le secteur sud, vous ne pouvez pas manquer la superbe Arcturus, la principale étoile de la constellation du Bouvier. Arcturus, dont le nom vient du grec Arcturos, qui signifie gardien des ours, est facilement repérable, justement grâce à la grande ours, en prolongeant la queue de cette dernière du côté opposé au chariot. On tombe forcément sur ce bel astre rouge et brillant. Cette couleur indique le statut d'Arcturus. C'est une géante rouge, donc une étoile en fin de vie, qui bientôt, bon cela se chiffre quand même en quelques millions d'années, aura épuisé ses réserves initiales d'hydrogène pour fabriquer de nombreux atomes plus lourds qu'elle dispersera lors de sa mort. Mais justement, nous y reviendrons lors du focus.
Eh bien voilà encore un mois d'observation riche et intéressant. Et si nous passions au focus, il est donc consacré à l'omniprésence de l'eau dans l'univers. C'est un thème qui me fait penser à l'un des premiers présidents de la République, le maréchal de Mac Mahon.
Bravo pour la transition. En 1875, le président Mac Mahon, qui manquait un peu d'esprit de répartie, fit, lors d'une visite dans le sud-ouest, lors d'une importante crue de la Garonne, cette plate réflexion restée célèbre dans les livres d'histoire. Que d'eau, que d'eau.
Et le préfet qui le recevait, et qui lui n'en manquait pas d'esprit, lui retorqua avec malice. « Oui, monsieur le président, et encore, vous ne voyez pas toutes celles qu'il y a en dessous. » Bon, revenons à nos flots. Il est vrai que sur Terre, globalement, nous ne manquons pas d'eau. Mais est-ce le cas partout ailleurs ?
La planète bleue regorge d'eau, en effet, sous de multiples formes. Glace, nuages, océans et eau douce. Même si cette dernière catégorie risque de ne pas suffire à nos besoins effrénés, surtout sous sa forme potable. Mais bon, c'est un autre débat. Il y a plusieurs décennies, nous ignorions, même si nous en avions quelques indices, que la Terre était loin d'être l'unique planète à posséder de l'eau. Et puis, nous avons commencé à nous y intéresser. Car l'eau est le support essentiel de la vie telle que nous la connaissons. Et si nous désirons développer l'exploration des autres mondes, nous aurons également besoin de trouver de l'eau sur place, que ce soit pour assurer notre survie, et aussi fabriquer carburant et atmosphère.
Commençons par chez nous, notre système solaire. Je crois savoir que l'on a détecté beaucoup d'eau et même des océans sur certains satellites de Jupiter et Saturne.
Et oui, Europe est l'un des plus gros satellites de Jupiter, quasiment de la taille de notre Lune. Toute sa surface n'est qu'une couche de glace lisse qui ressemble à une boule de billard. Et sous cette surface a été détecté un océan de 70 à 140 km de profondeur. Une paille, si on pense que les nôtres ne dépassent pas 10 km.
Il existe une configuration assez similaire sur Encelade, un satellite de Saturne, où l'on a détecté récemment des geysers de vapeur d'eau émis au niveau des pôles. On sait aussi maintenant qu'il y neige régulièrement sur Encelade.
Et fort de ces premières découvertes, les astrophysiciens ont poussé les recherches. Il y a de l'eau sur d'autres satellites de Jupiter, comme Callisto et Ganymède, et aussi l'énorme Titan. Il en existe également beaucoup sur les géantes glacées comme Uranus et Neptune, et probablement dans les atmosphères de Jupiter et Saturne. Nous savons de plus que de l'eau existe sous la surface de Mars, qui d'ailleurs était baignée par des océans il y a quelques milliards d'années. Et ce n'est pas Tintin qui va nous contredire, il est probable qu'il existe de la glace dans des grottes enterrées sous la Lune.
Bref, il y a de l'eau quasiment partout, et souvent en très grande quantité. Mais d'où vient-elle ? On évoque les comètes, les astéroïdes.
Eh oui, les comètes, dont on sait que les noyaux sont surtout des boules de neige et de glace sale. Il y en a plusieurs milliards en réserve qui tournent à grande distance du Soleil dans ce que l'on appelle la ceinture de Kuiper et le nuage de Oort. De temps à autre, sous l'influence d'une perturbation gravitationnelle, l'un de ces astres se rapproche du Soleil et de nous. Certains théoriciens pensent d'ailleurs que ce sont ces noyaux cométaires qui auraient pu apporter toute l'eau sur Terre au début de la formation du système solaire. Mais cette hypothèse fait encore l'objet de débats.
Cela ne fait que déplacer la question de l'origine. D'où vient l'eau des comètes ?
Eh oui, des étoiles. Ah oui, dit Insiste, c'est surprenant. Mais il faut se rappeler d'autres émissions où nous avons évoqué la vie et la mort des étoiles. Nous avions indiqué en particulier que les étoiles sont de gigantesques réacteurs thermonucléaires qui, au cours de leur vie, fabriquent, à partir de l'hydrogène primordial dont elles sont constituées au départ, une grande quantité d'atomes plus lourds et, entre autres éléments, beaucoup d'oxygène et de carbone. Rappelons-nous ce que nous avons dit d'Arcturus en début d'émission. Lorsque les étoiles meurent, ces éléments sont dispersés dans l'univers et réintégrés dans la structure des nouveaux systèmes solaires en formation.
Oui, beaucoup d'oxygène donc. Et nous savons par ailleurs que l'hydrogène est le composant le plus présent dans notre univers. Lorsque l'on combine oxygène et hydrogène, H2 et O2 pour les chimistes, on obtient, grâce à une réaction assez violente, ne pas la tenter dans sa cuisine, des molécules d'eau dont la formule chimique est bien sûr H2O.
De plus, avec le carbone et l'oxygène, on obtient le CO2, le gaz carbonique, qui est, avec l'eau, un des composants essentiels de la vie. Il est largement utilisé par les végétaux et, sous forme de carbonate, il a permis sur Terre le développement d'une grande partie des coquilles de la vie marine. Enfin, en continuant de combiner carbone, hydrogène et oxygène, on peut voir apparaître des molécules de plus en plus complexes. Ce sont les hydrocarbures organiques, support des protéines, des sucres, des lipides, et cela va jusqu'aux acides aminés et à l'ADN. On peut voir ainsi que l'on dépasse largement le seul cadre de la production d'eau pour ouvrir la voie à l'apparition de la vie, du moins sous la forme que nous lui connaissons sur Terre.
Quel fascinant Lego en perspective, mécano pour les plus anciens. Donc, rien n'interdit de penser qu'il y a aussi beaucoup d'eau sur et dans les nombreuses exoplanètes que nous n'arrêtons pas de découvrir. Nous en sommes à plus de 5000 à ce jour, mais les statistiques indiquent que pratiquement chaque étoile de notre galaxie compte au moins une planète. Et il y a quelques jours, des astronomes français, Cocorico, viennent de découvrir plusieurs dizaines de comètes en orbite autour de Beta Pictoris. Beta Pictoris est la première étoile, d'ailleurs assez similaire au Soleil, bien que plus jeune, autour de laquelle a été détectée et même vue une exoplanète. Et maintenant, on y découvre des comètes.
Et ce n'est probablement pas la seule. Il y a environ 200 milliards d'étoiles, donc de planètes, dans la galaxie. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, on peut imaginer ainsi des centaines de milliards de planètes qui renferment de l'eau et pour beaucoup des molécules organiques.
On peut rêver, mais sans aller jusque-là, nous disposons de la technique de la spectroscopie. Elle consiste en analysant les spectres lumineux que nous recueillons à l'aide de nos télescopes à identifier les molécules présentes à l'extérieur de notre système solaire. Et bien sûr, on détecte partout la signature caractéristique de la molécule d'eau. Nous allons en rester sur ces excitantes perspectives et vous donner rendez-vous pour le mois prochain. Au revoir.
Au revoir.